sais pas, limite.
Toujours donc le Libre Journal des Sciences, en compagnie donc de Jean-Pierre Rondeau, de Xavier Guillot et de Jean-François Susbiel. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons poursuivre notre analyse des effets et des causes profondes de la crise financière et économique actuelle, manière de nous poser la question de savoir si, de fait, l'économie et la finance sont des sciences, et si elles ne le sont pas, de quelle, entre guillemets, discipline elles relèvent. Alors Xavier Guillot, vous expliquiez à l'instant combien cette crise économique et financière que nous traversons était le fait aussi d'un certain nombre de renoncements politiques engagés à partir des années 1980. Pouvez-vous préciser, est-ce que c'est le grand tournant européen 1983-84 de François Mitterrand? Est-ce que c'est l'engagement dans un capitalisme financier? Est-ce que c'est ce que Michel Albert avait essayé d'expliquer en 1990 en opposant un modèle rhénan du capitalisme à un modèle anglo-saxon et en disant que finalement c'était ce modèle rhénan qui était perdant ou qui allait perdre? À quel moment s'est située cette rupture ou quelles en sont les grandes étapes?
Moi, je pense que je ne pense pas qu'il y ait un. Enfin, je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'il y ait un grand complot ou des. Bon. Je pense qu'il y a eu une dans nos sociétés très riches et très fortunées. Au sens du bonheur du terme, c'est-à-dire on a eu la chance de vivre pendant quasiment un demi-siècle sans guerre, sans rien, enfin bon, donc c'est de la bonne fortune comme on dit chez les marins, hein.
Mais déjà quand même avec un décalage assez important, Michel Rocard le disait il y a peu de temps, pendant 30 années, 45-75, on a été sur un modèle à forte croissance, de plein emploi, qu'on a appelé les 30 Glorieuses. On peut quand même situer à peu près au tournant, vous parliez de la guerre du Vietnam, 73-75, d'un modèle qui déjà commence à devenir boiteux avec un chômage de masse, une inflation relativement forte, et puis un modèle industriel qui s'appauvrit assez nettement.
Je gardais ça presque pour la conclusion, pour donner une note optimiste, mais on a beaucoup parlé de la crise de 29, mais la crise de 73, on l'a un peu oublié, donc comment elle se déclenche, c'est avec la guerre, c'est le Yom Kippour, hein, et la guerre, donc tout d'un coup l'attaque contre Israël, et les Américains se portant indirectement au secours d'Israël, et puis derrière la rétorsion des pays, la rétorsion des pays arabes contre l'ensemble de l'Occident.
Hein. Constitution de l'OPEP, donc, et donc
voilà, donc on avait 1970, il faut rappeler, on avait un pétrole qui valait un 30 par là, hein, ou un 70. Et 1973, il vaut 3 dollars, hein, et puis après la crise, il est multiplié par 4, hein, donc
12 dollars, et en 79, il en valait 40.
Et on oublie, donc ça c'était justement la fin de la période des décolonisations des pays, avec moins d'importance des pays occidentaux sur les pays arabes, avec le soutien, qui avait aussi le soutien de la Russie à l'époque, hein, donc
oui,
c'est un changement de... Oui, juste une minute. Et donc les Français ont un peu oublié cette crise, vous étiez jeune, mais 1973, quand on sortait dans Paris à 19h, toutes les lumières, toutes les anciennes lumineuses s'éteignaient, c'était un choc terrible. Les fêtes de fin d'année se sont passées dans une certaine tristesse, et donc c'était un choc énorme, et je suis pas sûr que celui qu'on a aujourd'hui soit tellement pire que celui de l'époque.
Et oui. Voilà. Pour répondre à votre question, je dirais que sur ces 30 dernières années, où paradoxalement on a quand même créé énormément de richesses, une partie virtuelle, une partie réelle, mais enfin il y a eu quand même beaucoup de création de richesses. Les Français sont beaucoup plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Hein. Dans les Échos l'autre jour, des chiffres assez ahurissants, où le pouvoir d'achat des Français aurait augmenté de l'ordre de 168%.
Oui, parce que quand on intègre tous les biens de
sur ces 30 dernières années. Mais en même temps que vous avez eu... Oui, on a un pouvoir d'achat quand même assez conséquent aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je vois par exemple mes enfants, même moi en tant que jeune adulte arrivant dans la vie professionnelle en ayant terminé mes études, etc., j'ai eu accès à une modernité que mes grands-parents et mes parents n'ont pas eu. Bon. Sauf que ma génération, ou les générations qui dirigent aujourd'hui, ont baigné là-dedans, n'ont pas connu le moindre dysfonctionnement majeur. On a eu des dysfonctionnements de type bulle spéculative à gérer, ou rupture sur certaines logiques de marché, avec quelques petites guerres périphériques.
Ils ont le chômage quand même par rapport à...
Oui, mais quand même, je veux dire, on n'a pas le problème que 80% de la planète connaît, qui est un problème d'alimentation, qui est un problème de survivance au quotidien, avec des guerres tribales, des affrontements extrêmement brutaux, etc.
La pauvreté, etc. Évacuer, la peste, la faim
et même, on n'est pas, on est même plus dans les affrontements de type nationaux, enfin, entre pays, etc. Donc on a une génération qui est aux commandes et qui ne sait plus ce qu'est la réalité de la coexistence. La réalité avec les conditions minimales de survie, ces fameuses digues que j'évoquais, les digues qu'il faut avoir pour faire face à n'importe quelle infortune de l'existence ou à n'importe quel risque majeur, et puis en même temps ce qu'est aussi, quand rien ne va plus, le rapport de force absolu avec les autres, avec lesquels est la guerre par exemple. Nous on a des générations aujourd'hui qui sont au pouvoir qui ne savent pas ce que c'est. Que la guerre, par exemple. C'est quelque chose qui n'existe plus pour eux. Et donc, on a toute une élite qui s'est installée dans un espèce de confort de la consommation, et en même temps, là, je vais très loin dans mon propos, mais un certain confort de la complexité intellectuelle, ce brouillard de l'esprit qui permet de pouvoir, grosso modo, enfumer son voisin,
d'évacuer les responsabilités réelles.
Évacuer les responsabilités, raconter ce qu'on veut, et puis faire croire n'importe quoi et rentrer dans cette culture du camelot avec aujourd'hui, les vrais maîtres du jeu aujourd'hui sont les gens qui sont dans le marketing, la communication, enfin ce qu'on appelle les communicants, etc. Et nos politiques sont devenues aujourd'hui, ce sont plus des politiques. Aujourd'hui, nos politiques sont devenues les instruments. Multimédiatiques, parce qu'ils sont sur plein de vecteurs de communication, aussi bien celui du virtuel avec Internet, avec leur blog, ils passent combien de temps derrière un micro ou une caméra par rapport au temps qu'ils passent sur les dossiers réels, ceux de l'économie réelle, ceux de la société réelle. Bon, aujourd'hui, ils passent quasiment 70 à 80% de leur temps à communiquer et à être dans cette fabrication d'une vie politique abstraite, complètement déconnectée, je dirais, de la vie réelle. Ça a provoqué, notamment sur ces 5 dernières années, sur l'ensemble des pays européens, c'est pas propre uniquement à la France, hein, des décrochages entre les populations qui commencent aujourd'hui à rencontrer quelques difficultés. Enfin, il y a les retours de la mondialisation, les retours de la globalisation, enfin tous ces retours pervers. Là maintenant, la crise financière qui arrive, etc. Et il y a un décrochage complet entre les élites et la population. Parce que les élites, ce sont... Nos élites, ceux qui dirigent aujourd'hui, sont dans une culture de la Staract. Hein. Ils ne sont plus dans une culture de la gestion de la police, au sens grec du terme. La cité. Ils sont ailleurs. Ils sont dans un autre monde. Et alors aujourd'hui, ils sont confrontés à des réalités pour lesquelles ils n'ont jamais été préparés. Mmh. Ou qu'ils n'ont même pas intégré. Quand vous allez les voir et que vous discutez, par exemple, aujourd'hui de la situation, mettre à l'ordre du jour certaines questions qu'on se pose ici, librement, entre nous, est impossible. Parce que pour eux, ça ne représente rien. Ça ne représente rien en termes de vécu, et même d'ailleurs ils n'imaginent même pas les réponses ou le début des réponses qu'il faudrait mettre en place. Voilà. Donc on est sur des trucs assez ahurissants avec des gens qui sont aux commandes et qui tournent le dos à la réalité. C'est comme si vous aviez fabriqué, si vous voulez, des officiers de marine, voyez, je prends une comparaison, qui sont dans des bateaux, ils tournent le dos à la mer. Et ils passent leur temps à dialoguer avec des gens qui sont dans la communication et même plus avec leur carré opération. Voilà. On est dans cette situation-là. Et alors, quand vous avez des gars qui sont dans le carré opération, qui leur disent « il se passe des choses sur la mer », des choses qui sont un peu bellicistes, hein, c'est-à-dire qu'on voit des acteurs qui arrivent et qui nous veulent du bien ou du mal, oui, et qui voient que la météo change et qu'il va falloir vraiment se préparer à affronter une mer difficile, eh bien, les types n'entendent pas. Ils ne peuvent pas entendre. C'est inaudible pour eux. Ils sont sur autre chose. Ils sont sur la construction d'un message qui est interne sur la vie du bateau, sur les agréments du bateau, sur tout ce qu'on va mettre en œuvre pour redistribuer le bonheur à l'intérieur du bateau, etc., pour entretenir l'illusion que le bateau ne tanguera pas, ne bougera pas, ne sera pas coulé, etc., etc. Or, la réalité, elle est différente, parce que sur la mer, il se passe beaucoup de choses.
Alors, typiquement, est-ce que ce n'est pas ce qui explique aussi la force du slogan ? On se souvient, évidemment, dans la campagne présidentielle de 2007, d'un candidat, celui qui fut finalement élu, qui expliquait qu'il irait chercher la croissance avec les dents, ce qui voulait dire qu'elle était bien là et qu'elle était à portée de main. Qui expliquait aussi que si les Anglais étaient si performants, c'est précisément parce qu'ils avaient une industrie financière extrêmement forte et qu'il fallait donc prendre modèle sur eux. On a eu aussi des personnes qui nous expliquaient que après le début du commencement de la crise des subprimes, on avait évacué le plus difficile et que donc on aura un CAC 40 à 6000 points fin 2007, ou à 7000 même. Et puis même au cours de la crise, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je crois que c'était un éditorialiste du Monde, Alain Main, qui expliquait que c'était absolument le moment d'acheter, que Warren Buffett se lançait de manière massive dans des investissements et qu'on pouvait se régaler parce que précisément tout était en
on
place
a tout
pour
lu,
qu'un
hein.
rebond.
On a tout lu ces dernières semaines.
Là, tout dernièrement, un commentateur d'un grand organisme de conseil boursier explique: le crack est fini, la reprise est bien là, le CAC a gagné plus de 11% ce lundi et les indices américains ne sont pas en reste, plus 11,21 sur le Dow Jones, 11,80 sur le Nasdaq. Le crack est donc fini, les marchés ont retrouvé une liquidité normale et la baisse de la semaine dernière a bien pris fin. C'est daté du 13 octobre 2008. Ouais. Donc, quelle crédibilité, quelle scientifique accorder à ce type de propos ? Est-on encore en face de personnes qui, en quelque sorte, représentent une discipline ou est-on en place en face d'un autre type ?
Mais non, c'est une culture de l'instantané.
Charge même des gens qui parlent, ce sont des leaders d'opinion du monde financier. Ils ne peuvent pas vous dire que ça va aller mal. C'est impossible. Ils peuvent le dire comme Jean-Pierre Rondeau dans le secret de leur cabinet à des clients, mais on ne peut pas sur les ondes dire que la bourse va baisser. C'est impossible parce que vous avez un phénomène auto-entretenu ou auto-réalisateur.
Moi, je l'ai dit en février 2007, c'est à Radio Courtoisie,
c'est vrai,
chez mon camarade de Beckett.
Voilà. Donc, ce qui explique,
on peut le dire et on devrait le dire.
Oui. Ce qui explique que les vrais leaders d'opinion, et en tout cas les politiques, sont obligés, vous avez cité à la main que des gens comme de ce calibre, sont obligés de dire que les choses se sont calmées, qu'on a touché le fond. Alors c'est le fameux bottom, est-ce qu'on a touché le fond?
C'est scandaleux.
Il y a un langage qui est obligatoire.
Madame Lagarde qui a...
C'est scandaleux,
depuis l'été de 2007, du moins, été 2007, elle annonce qu'on ne serait pas touché par la récession. Ouais. Et puis, Monsieur Sarkozy rentre des États-Unis, il était chez Bush. Et il a dû lui tirer les oreilles. Et donc, le matin même, elle dément ce qu'elle avait dit la veille. Et le soir même, elle repart dans les mêmes.
Et il fait un discours à Toulon. Voilà. Magnifique discours où il dit la crise est derrière nous. Voilà. Et lundi matin, Dexia.
Oui, mais là, la crise est là. Alors, pour vous donner un exemple, pour renforcer vos exemples, j'ai un article du Monde sous les yeux et donc c'est, qui commence par Arjun Murthy a eu du nez, analyste chez Goldman Sachs. C'est lui qui avait prédit en mars 2005 que le baril de brut atteindrait $105 alors qu'il était... Voilà, ça commence comme ça. Et donc ben là, il prédit le prix du baril de brut pourrait atteindre $200. Nous sommes en mai 2008, là. Voilà, pour montrer l'exemple, effectivement. Non, parce qu'on oublie que les marchés, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, un problème de psychologie. Hein.
Oui, mais vous êtes obligé de rassurer les marchés, enfin, les gens qui sont leaders
d'opinion. Goldman Sachs, ce sont des vendeurs de produits, je suis désolé.
Oui. Non, je ne parle pas du pétrole, mais je parle de la crise en général.
Goldman Sachs, ce sont des banques, ce sont des banquiers.
Oui.
Et d'ailleurs, on peut se, des fois, douter de leur façon de gérer, puisqu'on voit après leurs résultats. Mais en tout cas, le problème ici, et là, je sors des politiques, mais le problème des analystes financiers, le problème des gérants, ça a été de mentir pendant toute cette crise. Et moi, j'ai vécu beaucoup de crises parce que depuis que j'ai démarré mon travail, j'ai même connu celle donc de 73 et j'en ai connu. Mais là, je pense que jamais je n'ai vu autant de mensonges. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la moralité, je pense. C'est-à-dire que jamais je n'ai vu autant, et j'ai été moi-même gérant, mais jamais je n'ai vu autant de mensonges que dans cette crise. Je l'explique Alors peut-être par les raisons tout à fait profondes que vous avez indiquées, mais aussi je l'explique parce que 2000-2001-2002, nous avons eu une crise et que il fallait absolument pas qu'on en ait une autre dans la même décennie parce qu'on avait subi donc une crise avec un fort ralentissement dans les gains des sociétés de gestion avec qui s'accompagne aussi de chômage, etc. Et je pense que là, on a voulu nier avec ces arguments dont je parlais tout à l'heure, l'Inde, la Chine qui viendrait sauver le monde, on a voulu nier cette crise et on a menti. Et moi, sur un plan déontologique, je suis désolé, mais je pense pas que parce qu'on a des SICAV à vendre, je pense pas qu'on doit s'autoriser à dire que ça va aller mieux demain, que c'est plus bas, qu'on est au plus bas des.
D'une part, vous devez.
Là, on est dans les syndromes qu'on a connus avec Tchernobyl, dans les syndromes qu'on connaît avec les pandémies.
Non mais c'est toujours chez les autres, ça s'arrête toujours à nos frontières et de toute façon tout est sous contrôle.
Mais c'est le déni de réalité. À chaque fois, c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous pouvez l'avoir à titre personnel, hein, ce déni de réalité sur des situations ordinaires. Hein. Vous avez quelque chose qui arrive, vous pressentez que ça va arriver et vous partez du principe que ça n'arrivera pas. Alors que vous avez le pressentiment que ça va arriver. Et je suis sûr que Mme Lagarde, dans son comportement, avait tous les éléments pour justement qualifier correctement l'événement, mais que tout le système l'a embarqué dans une communication de déni en disant il faut rassurer, parce que c'est un problème de réassurance permanente, surtout quand en plus ça on sait que le système bon, qui garantit le dépôt des gens en fait il le garantit quoi, mais tout ça c'est des mots, donc ça repose sur des mots. Donc on dit le nuage ne franchira pas les Alpes, la contamination de cette crise ne franchira pas la frontière française. Et on va même plus loin que ça. On vous dit parce qu'on a le meilleur système bancaire au monde et que nous, justement dans la qualification de l'événement, que nous avons en plus de ça une colonne vertébrale au niveau du système français qui est une colonne vertébrale publique et que notamment sur le problème du logement social, puisque les subprimes sont liés à ça, sur le logement social, on a toute une architecture bancaire et financière qui est encadrée. Et aujourd'hui on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit exactement qu'on est pris au piège dans les mêmes phénomènes qu'on trouve dans les pandémies. Vous savez quel est le principal vecteur de contamination de la pandémie en général ? C'est ce qu'on a appris notamment avec le SRAS. C'est l'hôpital. C'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale qui doit assurer la survivance du système qui est la première touchée et qui est le vecteur de propagation. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des banques qui sont touchées, mais des banques qui sont touchées comme les banques françaises sont assez solides, en effet, et elles sont touchées, mais à la marge pour l'instant, hein, parce qu'elles sont quand même un petit peu solides sur le plan des banques de dépôt. Mais qu'est-ce qui est le plus touché ? C'est tout le système de gestion publique, de toutes ces stratégies d'investissement qu'on évoquait. Dexia qui est touché. Dexia, c'est quoi ? C'est le financement des collectivités locales. L'écureuil qui s'amusait à faire des bricolages. Vous apercevez qu'aujourd'hui, c'est Dexia et l'écureuil qui ont conseillé à des sociétés d'HLM et aussi à des collectivités locales de rentrer sur ces marchés de produits dérivés pour les toxiques. Vous avez une petite collectivité locale comme territoriale qui n'est pas neutre, qui est la Seine-Saint-Denis, avec quand même l'autre jour une déclaration de son patron qui dit aujourd'hui, il faudrait qu'on demande la tutelle de l'État parce qu'on n'est plus en mesure de payer.
J'étais maire adjoint des pavillons sous bois et j'étais en Seine-Saint-Denis, donc et j'ai moi-même eu une grosse dispute avec mon maire dans la mesure où justement j'avais réussi à emporter l'adhésion du conseil municipal avec une partie de l'opposition. Mais de l'opposition et des gens de la majorité, parce que justement on voulait emprunter à l'époque en produits indexés et on voulait endetter la commune sur des crédits indexés, donc c'est pas récent. Ce que je voudrais dire, c'est quand j'ai vendu 40% d'actions pour mes clients en février 2007, on oublie que c'était un mini crack, un mini au regard de celui qui a lieu aujourd'hui, mais c'était un crack en février 2007 et il avait un certain nombre de raisons qui sont toutes les mêmes que celles qui sont aujourd'hui. Il y avait un discours de Greenspan qui venait de dire « je pense que les États-Unis rentrent en récession ». Il y avait l'inflation, là, bien entendu, là, les craintes sur l'inflation n'ont pas à l'envers aujourd'hui. Il y avait les premières chutes des subprimes, on savait depuis octobre 2006, mais là, on a eu les premières tombées donc de subprimes en février 2007. On avait les opérations de carry trade, donc les inquiétudes graves Donc, qui était la spéculation des hedges, et on avait la Chine qui avait mis le frein interne sur la spéculation de sa bourse interne.
Hein,
et ces cinq raisons
faisaient des créances douteuses
en dehors de l'inflation qui est en train de se retourner à cause de la récession. En tout cas, on avait toutes les raisons de croire, et Madame Lagarde ou les politiques et tout ça avaient toutes les raisons de croire qu'on allait vers effectivement des événements économiques importants, à la fois économiques et à la fois financiers.
C'est vraiment les élections, donc.
Ce qui signifie que non seulement on n'est pas capable de faire une prospective sérieuse et d'anticiper un certain nombre de phénomènes, mais même lorsqu'on a des signaux
on refuse de voir.
A posteriori nous donnant des indications très claires, on refuse de les écouter et de les mettre en place.
C'est-à-dire on a un ennui et puis on repart tout de suite dès que ça redémarre, que ça se tasse un peu, on redémarre dans la folie que décrivait Xavier.
Ouais, mais c'est ce qu'on a vu avec l'affaire de Katrina. Je reprends toujours cet exemple en décalé, mais 2 ans avant, des scientifiques de l'Observatoire des cyclones à Miami avaient fait le scénario. C'est exactement ce scénario qui s'est joué. Ils se sont mis dans une hypothèse d'un cyclone de cascade 5. Ils ont fait la traçabilité de l'événement. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont présenté la matrice de leur analyse aux politiques. Les politiques ont dégagé les trucs en disant que ça ne se passera jamais. Que s'il y a des cyclones, ils vont sur Cuba ou ils vont sur le Honduras.
Toujours
chez
les autres.
Ils vont pas sur la Nouvelle-Orléans, surtout pas sur la Nouvelle-Orléans. Et puis, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est dans la sortie de crise, qu'est-ce qui s'est joué? Il s'est rejoué la même chose, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas de régulation politique, il n'y avait pas cette question de la responsabilité politique n'a pas été reposée correctement. Tout le monde a recommencé à reconstruire en zone inondable, voire même à évacuer les plus faibles pour pouvoir faire de la spéculation encore plus facile sur du foncier qui était maintenant disponible et non récupérable. Vous voyez, et donc on est aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on articule le pilotage de cette crise, parce qu'on y rentre tout juste. On y rentre tout juste. Et cette crise, il y a des gens qui l'ont annoncée il y a 3-4 ans. Moi, je fais partie de ceux qui avaient même écrit des choses extrêmement précises dans ce domaine-là.
Vous pouvez citer votre très bel ouvrage,
y compris dans mon livre,
« La France agira », paru en 2006, et dans lequel, en un magistral premier chapitre introductif, vous expliquez que la France est dans une situation extrêmement
fragile
à cause de l'interface de 3 scénarios possibles qui d'ailleurs pourraient très bien se conjuguer, un scénario à l'Argentine, un scénario à la Libanaise et un scénario à la Yougoslave.
Oui, mais quand vous parlez de ça
en 2006.
Mais quand vous parlez de ça en France, alors que c'est assez net quand vous en parlez avec des étrangers, quand vous allez aux États-Unis ou même dans d'autres pays, ils vous disent on a le pressentiment que vous êtes quelque part entre ces 3 scénario-là, quand vous en parlez en France, vous êtes systématiquement rejeté des cénacles, parce que ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. Alors qu'on sait très bien que là, par exemple, si jamais il y avait aggravation de la situation sur le plan économique, au-delà le financier et le bancaire, le risque premier, c'est un risque de sécurité publique.
C'est la rue.
C'est la rue. Et si jamais on n'arrivait pas sur le plan politique et sur le plan du pilotage de cette crise, à réguler le problème de l'exemplarité des dirigeants et de l'authenticité du traitement de cette crise. Parce que l'authenticité du traitement de cette crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des gens qui soient aujourd'hui capables de repasser en mode dégradé. Ce que vous évoquiez tout à l'heure avec le problème de la clarification des comptes. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est par exemple, il faut, pour pouvoir travailler cette résistance des populations et voir la capacité de résilience demain, il faut que les agences bancaires, les agences d'assurance, les agences immobilières, enfin tous ceux qui sont au contact de la population soient renforcés aujourd'hui avec des gens qui soient capables de pouvoir réexpliquer les choses, parce qu'il faut réexpliquer les choses aux gens, il faut être au contact des gens. Dans toutes les crises de ce type-là, il faut décentrer une grande partie des moyens vers le terrain, au plus près des populations, pour tenir.
Et repasser par l'intelligence.
Et repasser par l'intelligence. C'est toute une énergie du système qu'il faut être capable de redéployer. Ben aujourd'hui, quand vous regardez le modèle de gouvernance de nos systèmes, les grandes banques, même nos grandes entreprises en général, ceux du CAC 40, etc., vous avez quoi? Vous avez cette espèce de technocratie, ces oligarchies dirigeantes, cette technocratie qui s'est installée depuis 30 ans dans les systèmes, on les connaît bien. Avec qui ont leur territoire,
qui
se copent entre eux en plus.
Qui se copent entre eux.
C'est tout le problème des conseils d'administration.
Qui ont construit tous ces produits illisibles, qui sont dans ce marketing, cette communication permanente et redondante, etc. Et puis vous leur dites, bah écoutez, maintenant ça suffit, hein, vous rangez tous vos bréviaires là, de communication sur la surconsommation, surendettement, etc. Et vous prenez votre sac, vous allez aider les gars qui sont sur le terrain à travailler cette résistance et cette résilience de la population face à un choc qui va être énorme, où on va être obligé à un moment ou à un autre de dire aux Français qu'ils sont moins riches qu'avant. Hein, parce qu'il va falloir, quand les contrôleurs des comptes vont passer un peu partout, il va falloir qu'on explique aux gens que ce qu'ils avaient, bon, ils avaient 100 hier, et c'est peut-être 80 demain. Et si on continue comme ça, bah, c'est le syndrome argentin, ce sera plus 80, ce sera 20, hein, si on n'intervient pas assez rapidement. Donc il faut renforcer le terrain. Mais renforcer le terrain avec quoi aujourd'hui? Avec des gens qui sont dans l'indolence et qui sont dans ces jeux oligarchiques, qui sont dans des mondes parallèles, qui sont derrière des écrans plats toute la journée et qui se projettent sur des modèles mathématiques ou des... Et c'est là où il faut se poser la question du pilotage. C'est jusqu'où on va dans l'affirmation d'une certaine conduite, plus que ça, même dans une certaine forme de rétablissement d'une certaine autorité. On voit bien, par exemple, avec le président de la République aujourd'hui qui dans sa relation avec les banquiers, on n'est plus dans un dialogue. On est dans une relation qui devient un peu plus frontale, avec des choses sur lesquelles on peut s'interroger, mais enfin, où il est obligé de taper du poing sur la table pour pouvoir... et avec des gus qui ne sont pas exemplaires, il faut voir quand même les choses comme elles sont. Avec des gens qui continuent à se verser des volumes de stock options, ça passe pas auprès de la population. Enfin, je veux dire, donc on a tous ces décrochages qui sont en train de se mettre en place. Il faut recadrer tout ça très vite, très très vite. Et c'est pas une affaire de 6 mois. Hein. C'est une affaire de jours et de semaines, hein, pas plus. Hein.
Je vous propose de poursuivre cette analyse après un court message, mais message important pour les éditeurs de Radio Courtoisie et pour Radio Courtoisie elle-même.
Le dimanche 9 novembre, nous célébrerons le 21e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Dimanche 9 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez déjeuner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Jean Ferré. Réservez dès maintenant, en envoyant un chèque de 50 € par couvert, à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 9 novembre, à midi, pour déjeuner ensemble à la Mutualité et décerner le prix Jean Ferré de l'année 2008, 21e anniversaire de Radio Courtoisie.
Toujours dans le libre journal des sciences de David Mascré, consacré à cette question de savoir dans quelle mesure et si l'économie ou la finance sont des sciences. L'émission, évidemment, a suscité toute une flopée de questions. Je me permets d'en lire quelques-unes dont je vous demanderai de prendre bonne note et sur lesquelles je vous demanderai de bien vouloir apporter à votre tour vos lumières. L'animateur de l'émission demande de quelle science relève la finance ? Qu'elle relise simplement les manuels d'histoire et qu'elle fasse le lien avec le proxénétisme et le plus vieux métier du monde. Une auditrice nous indique que nous avons pour notre malheur beaucoup de personnes parmi nos dirigeants qui ont fait allégeance à des groupes américains. Exemple, Giscard au Bahamian Club, Rocard également à d'autres organismes analogues. Raymond Barre avait de son côté adhéré à la trilatérale, comme devait Jean actuellement. Chirac faisait partie de son côté du Skull and Bones. Tout ceci pour notre malheur, car il se trouve de ce fait complètement ficelé. Un auditeur indique « Le drame est que la destruction de trois est aujourd'hui la destruction de trois fondamentaux de l'économie dans chaque pays, pays qui de ce fait ont été appauvris. Ces trois fondamentaux sont l'alimentation, l'énergie en deuxième point, l'industrie en troisième temps. Ce sont les multinationales apatrides qui se goinfrent de richesses en appauvrissant les pays, mais ces personnes n'auront plus de clients car l'économie saine est un échange entre les pays qui, s'ils deviennent pauvres, deviendra impossible. Ce sera alors l'écroulement. Un auditeur nous indique que ce n'est pas de l'argent qu'il faut injecter dans le système, mais du travail utile et non des gadgets, internet, portable, ordinateur. Sully disait que les deux mamelles de la France étaient labourage et pâturage. Mais aujourd'hui, la France a un cancer du sein. Les gadgets ne sont que des instruments qui ne doivent pas étouffer les trois fondamentaux nécessaires à la vie, nourriture, énergie, industrie. Un auditeur, il faut remettre les banques à leur place et que dans chaque pays, on retrouve le travail utile qui rend le pays prospère au lieu de bidouiller dans le financier et dans la comptabilité. Un auditeur nous indique, en écoutant votre intéressante conversation, on peut se demander si finalement une correction telle que vous l'entendez ne serait pas finalement plus nuisible qu'utile. De même qu'un vélo lancé doit continuer à rouler pour ne pas tomber, en raison de l'énorme écart existant entre le réel économique et le virtuel financier actuel, le mieux n'est-il pas finalement d'entériner partiellement le modèle de développement récent qui a eu pour résultat un enrichissement de la planète ? Un auditeur, je trouve que les warrants, les artefacts et autres produits où l'on peut gagner beaucoup d'argent dans le sens contraire de la direction du marché, spéculation à la baisse ou à la hausse à l'aide de produits dérivés, ne peuvent que nous conduire à une crise financière. Un auditeur, à notre époque, aucun événement politique financier n'arrive par hasard. Cette crise a été prévue pour se dérouler ainsi. On parle de mondialisme, de gouvernement mondial, alors le moment est probablement venu d'ébranler le système et de déstabiliser les puissances, qu'elles soient grandes ou moyennes, qui seraient susceptibles de retarder la mise en place de ce gouvernement mondial. Une auditrice nous indique que l'équipe de Jacques Garello, donc il s'agit de notre émission, disait le contraire de ce que nous énonçons. Il y a trop de réglementations et c'est ce qui conduit à la crise financière. Une auditrice, en s'adressant à M. Jean-Pierre Rondeau, nous demande d'expliquer le sens du mot « hedge funds ». Autre question à M. Jean-Pierre Rondeau, quel degré de danger affecte-t-il les obligations privées et d'État qui constituent les contrats euros d'assurance vie ? Un auditeur, j'entends un intervenant demander qu'on envoie dans les banques des bataillons de contrôleurs. Malheureusement, la masse des fonds en cause dans la crise est gérée dans des paradis fiscaux qui sont à l'abri de tout contrôle étatique, car les fameux hedge funds, fonds spéculatifs, représentent des montagnes d'argent hors contrôle. D'autre part, nos banques sont implantées aussi dans ces paradis fiscaux et ne subissent de ce fait aucun contrôle. Un auditeur, la crise économique actuelle ne touche pas l'Amérique. C'est un jeu de bonneteau. Cela a été provoqué. À qui profite le crime ? Ce sont les dirigeants qui sont les gagnants. Voilà, encore de très nombreux autres messages, mais que nous n'aurons pas le temps de tous lire, sur ces grandes lignes et ces quelques réflexions. Quelles sont vos remarques ? D'abord, peut-être une première, est-ce une crise liée à un excès de régulation ou à un défaut de régulation ?
Non, je suis moi-même, je connais bien Jacques Garello et j'ai participé longtemps à la réflexion des libéraux et notamment de ce qui a préparé le libéralisme, le programme libéral un peu de la bande à Léo, comme on dit. Hein,
Léotard.
À Léotard, oui, avec Madeleine Longuet, etc. J'ai trouvé une formule pour un journal qui vient de sortir aujourd'hui, qui s'appelle Flash, qui m'a interrogé, donc qui m'a fait faire un article. Et j'ai trouvé une formule qui, je pense, traduit bien ce qu'est cette crise. Et j'espère que cette formule va faire le tour, je dirais pas du monde, mais en tout cas va réussir. C'est pas le libéralisme économique qui est ou financier, c'est pas le libéralisme financier qui est en cause, comme semble suggérer l'auditeur ou beaucoup d'intervenants. C'est le libertarisme financier. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens dont on a parlé tout à l'heure, ben, ils ont fait n'importe quoi, comme on peut le faire dans les mœurs, comme on peut le faire dans d'autres choses. Et donc, c'est plus du libéralisme, c'est du libertarisme. On a permis n'importe quoi.
Voir du libertinage.
Et donc, les moyens de contrôle existaient. La seule chose, c'est qu'on les a pas appliqués et qu'on n'a pas surveillé. On a laissé faire parce que ça, comme je disais tout à l'heure, ça arrangeait tout le monde. Pour ce qui concerne des banques, pour les paradis fiscaux, elles-mêmes directement n'ont pas investi dans les hedge funds. Elles ont investi dans les produits dans lesquels investissent les hedge funds. Mais donc les investissements des banques, ils sont contrôlables. On sait, on sait dans quoi elles ont investi et on peut très bien le faire contrôler. D'autre part, je pense pas que les îles Caïmans, qui sont à l'ombre quand même des États-Unis, pourraient refuser une quelconque intervention si les États souhaitaient le faire. Mais je pense que c'est un discours un peu politique et même politicien qui est le fait de considérer qu'il existe des paradis fiscaux, même au Luxembourg, etc., en oubliant de dire que la France est aussi un paradis fiscal, puisque tous les non-résidents, tous les gens qui viennent de l'étranger et qui placent en France ne sont pas soumis au même impôt que les Français. Donc voilà pour ce qui était des questions générales. En deux mots, une auditrice a demandé d'expliquer les H1. Je crois que mais on l'a expliqué, donc on va pas y revenir. Quelle sécurité donc pour les obligations, et ça sera ma dernière réponse, les obligations privées d'État qui sont dans les contrats d'assurance. En fait, elle fait cette dans les contrats d'assurance, il existe donc les multisupports. On peut être en support euro, qui est ce à quoi pense certainement cette auditrice, et on peut être à travers des unités de compte qui sont des actions, des SICAV, actions, obligations, etc. Donc j'élimine les SICAV qui sont des SICAV obligations qui subissent la loi de l'offre du marché, donc qui subissent la hausse et la baisse des taux. Mais quand on parle du support euro, qui est le support garanti auquel pensent la plupart certainement des auditeurs, l'argent a été investi donc par l'assureur au nom des assurés, mais le patrimoine appartient à l'assureur en tant que tel. Donc il est investi en obligations, en gros, à 70-75% dans les contrats d'actions françaises en moyenne. Le reste étant 15% d'immobilier généralement et 15% d'actions. Le titulaire du contrat d'assurance ne subit pas en face les aléas du marché et ne subit pas en face et ne bénéficie pas en face des progressions des marchés. Donc c'est l'assureur qui prend le risque, ce qui lui permet lui de uniquement avec les coupons des obligations, avec les dividendes des actions et avec les loyers de l'immobilier, d'assurer un taux minimum garanti pour les clients et voir une gestion un peu meilleure qui est aujourd'hui pour les bons contrats de l'ordre de 4,5, un peu moins pour d'autres. Voilà. Et alors donc le propriétaire celui qui a investi dans un support euro, il a en face de lui donc un patrimoine qui est détenu par la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance lui amène une garantie, mais donc il a un capital qui existe. Ce que je crois de toute façon, c'est que ce soit pour les banques ou les contrats d'assurance aujourd'hui, la meilleure des garanties, c'est pas les 70 000 euros dont on parle beaucoup. Le fonds de garantie des banques représente aujourd'hui de moins de 2 milliards, et la première banque qui ferait faillite verrait disparaître le fonds de garantie. Donc c'est pas ça la sécurité. La sécurité, c'est qu'aujourd'hui, je le pense, aucun État dans le monde, et on vient de le voir avec les exemples, aucun État dans le monde ne peut se permettre de laisser disparaître une banque ou une compagnie d'assurance. Donc si c'est une petite banque ou une petite compagnie, elles seront rachetées par une consoeur. Si c'est une grande, elles seront rachetées par un des États. Jusqu'à maintenant, donc aucun déposant dans une banque ou aucun titulaire de contrat d'assurance n'a perdu d'argent. Ce sont les actionnaires qui ont perdu de l'argent, mais les déposants pour l'instant n'ont pas perdu d'argent. Alors on peut toujours dire que l'État va disparaître et qu'il est super endetté. Pour l'instant, il a les moyens de lever des obligations et donc d'agrandir la dette. Je le nie pas, hein. Mais en tout cas, il a ces moyens-là. Et pour l'instant, donc, il protège. C'est la meilleure des garanties. Et si demain la garantie de cet État ne s'appliquait pas à une grande compagnie d'assurance qui disparaîtrait, eh bien je pense que le billet de banque qu'on a dans son coffre, que ça a été conseillé ici dans une autre émission, ne vaudra plus rien, que les livrets de caisse d'épargne ne vaudra plus rien, que
il faudra 500 euros pour acheter une baguette.
Et qu'on aura des brouettes comme pour l'époque de Weimar, hein, de la République de Weimar. Donc on aura besoin d'une brouette pour aller chercher son argent. Donc je pense que pour l'instant, la meilleure digue dont parlait mon voisin, la meilleure digue pour l'instant, c'est les États avec tous les défauts qu'ils ont. Et c'est pour ça que moi, je me félicite qu'ils soient intervenus de façon interventionniste. Je suis d'esprit libéral, mais je pense que le libéralisme, à certains moments, nécessite aussi l'intervention.
Oui, mais là, on est sur des problématiques de survivance collective. Voilà. Donc là, le libéralisme, il sait aussi être interventionniste quand il faut protéger le système.
Absolument. Ouais. Jean-François Susbiel, sur ces questions et peut-être sur, ces réponses ces aussi apportées, est-ce que les réponses opportunes étaient bonnes?
Oui, la réponse, je crois que l'un des auditeurs a mentionné qu'effectivement une baisse du pouvoir d'achat, ce à quoi on assiste depuis déjà une décennie, c'est les classes moyennes se retrouvent laminées. Nous avons vécu depuis le début du XXe siècle, en fait, c'était le Fordisme, hein, c'était Henry Ford, le président du fabricant du constructeur automobile Ford, qui avait eu cette idée géniale. Enfin, c'était un type peu recommandable par ailleurs, mais enfin là, il avait eu une idée géniale. Il avait dit mes employés sont mes clients. Donc si je paye bien mes employés, si je leur permets aussi d'emprunter, eh bien ils vont m'acheter des voitures. Et c'est ce monsieur, donc, on peut considérer, qui a lancé l'industrie de masse, enfin de consommation de masse, et qui nous a fait rentrer dans la société de consommation dans laquelle nous sommes. Enfin, nous avons vécu, disons, ces 30 glorieuses, et même les années jusqu'aux années récentes. Ce à quoi on assiste aujourd'hui dans cette période de capitalisme néolibéral complètement dérégulé, c'est que on revient à une structure ou une architecture de la société qui se rapproche de celle du 19e siècle, avec une nouvelle bourgeoisie. C'est-à-dire avec des gens, on va avoir une société avec 20 ou 30% de gens qui seront nantis, si l'on peut dire, et pour lesquels il va y avoir une nouvelle industrie qui va fabriquer des produits de semi-luxe ou de luxe pour eux. Et puis cette immense classe moyenne qui a constitué qui a généré d'ailleurs les systèmes politiques que nous avons eus, la social-démocratie, l'État-providence, etc. C'est parce qu'il y avait cette immense classe moyenne. Je pense que tout part de la société et de la psychologie sociale, et que le reste ne sont que des conséquences de ça. Et cette classe moyenne, elle est aujourd'hui laminée, donc elle est compressée. Une bonne partie est en voie de précarisation. Alors, la spéculation, nous avons longuement parlé pendant ce débat, ne fait qu'aggraver les choses. On en parlait à l'alimentation. Bon, c'est sûr, lorsque Bush a décidé de consacrer des milliards de dollars pour transformer le maïs en biocarburant, c'était une folie douce. C'est-à-dire, c'est de la folie douce. C'est presque un péché, quoi. On transforme pas de l'alimentation en carburant pour faire fonctionner les voitures, surtout les voitures dans les pays riches. Et alors il y a eu aux États-Unis, je crois que c'est le maïs, au Brésil, dans toute l'Amérique du Sud, c'est la canne à sucre, et puis en Asie, c'est
la déforestation massive de l'Amazonie. Voilà, qui pose un grand problème du point de vue de la conservation de la biodiversité.
Voilà, en Asie, la Malaisie, l'Indonésie, c'est l'huile de palme, donc c'est le palmier, et donc vous avez dans tous ces pays-là des élites qui deviennent immensément riches en cultivant, en déforestant des zones entières qui représentent des superficies colossales. C'est la superficie au Brésil, je crois que c'est plus que la Belgique qui est consacrée simplement à la canne à sucre, sans parler du soja. Bon, ça c'est moins contestable, mais en fait cette histoire de biocarburant, c'est une absurdité totale, et d'avoir accolé ce mot bio, qui a une valeur quand même positive et verte, à un crime, je veux dire, qui plonge des gens qui vivent à la limite de la pauvreté, c'est-à-dire qui ont entre 1 et 2 dollars par jour, qui vivent dans des je veux dire, il y a peut-être 1 milliard ou 2 milliards de gens qui sont comme ça à la limite, qui sont heureux, mais à cause de phénomènes comme cela, qui sont plongés dans la pauvreté parce que acheter du riz, acheter du maïs ou acheter du blé, tout d'un coup devient un produit de luxe. Eh bien, ça c'est. Alors ensuite, juste, je termine rapidement. Plusieurs personnes ont émis des suppositions un peu conspirationnistes se demandant si c'est très significatif, en se demandant si cette crise n'était pas prévue, voire voulue. Bon, le conspirationnisme, c'est une arme à double tranchant. Bien sûr, le conspirationniste est un esprit faible, influençable, et doit être condamné. Mais d'un autre côté, il faut aussi s'interroger sur les causes réelles et ne pas diaboliser les gens, tout simplement parce qu'ils posent des questions. On peut, je crois qu'il est légitime de se poser des questions. Oui, nous sommes en 2008, une année charnière, et tout cela arrive. Nous sommes au confluent de plusieurs cycles des l'économie est cyclique, mais il y a des cycles de court terme, moyen terme et très long terme. Et en ce moment, nous arrivons au confluent de plusieurs cycles qui sont des cycles pluricentenaires et puis d'autres cycles à des décennies. Et effectivement, les États-Unis arrivent à un moment clé, on peut parler un petit peu de géopolitique, un moment clé, puisque les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants, c'est plus de 50% du budget militaire de la planète, ce qui reflète mal leur domination, parce qu'en fait, il y a les États-Unis, et puis le reste, c'est très faible. Enfin, s'il y a la Russie, mais les États-Unis dominent militairement la planète. Les États-Unis se trouvent confrontés à l'émergence principalement de la Chine. La Chine, c'est, si on calcule son PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en utilisant un taux de change qui reflète mieux le pouvoir d'achat dans les différents pays, la Chine, c'est aujourd'hui déjà les deux tiers des États-Unis. Et c'est 1,5 milliard d'habitants. Donc, et ça se développe à la vitesse de 10%, ça pourrait baisser à 8%.
Ils sont très inquiets là parce qu'il va tomber à 9 ou 8% par an.
Voilà. Donc, le 9, c'est pas le même le 9.
Oui. Enfin, pour les États-Unis, pour les États-Unis en tout cas, ça représente le défi géopolitique ou géostratégique majeur. Alors, il y a des pays aujourd'hui qui bénéficient, enfin, disons, il y a les entreprises du Dow Jones ou l'Allemagne bénéficient en vendant des biens de consommation, pardon, des biens d'équipement à la Chine.
Toute l'industrie des machines outils.
Elle rentre en récession, l'Allemagne, là, officiellement.
Voilà. Ça va toucher à sa fin, tout ça. Ça va toucher à sa fin parce que les Chinois, tout simplement, ils sont profil bas, mais ils ont des ingénieurs, ils ont 20 ou 30 000 ingénieurs de très haut niveau qui sortent tous les ans des universités, ils sont en train de développer tranquillement, silencieusement les industries du futur. Ils ont déjà sorti leur propre TGV après avoir négocié pendant 15 ans avec Alstom, avec Siemens et avec les Japonais, Mitsubishi. Ils ont sorti leur propre TGV. Ils vont sortir bientôt un avion qui sera à peu près équivalent de l'A320 qui est lui déjà fabriqué en Chine. La Chine va être fournisseur de biens d'équipement. Donc, les États-Unis, les industries de pointe américaines et les allemandes et japonaises qui aujourd'hui bénéficient de la vente de ces biens d'équipement, ça va se tarir. Et les États-Unis, donc nous arrivons là à un basculement. 2008, je crois que c'est l'année charnière pour les États-Unis où il faut, quel que soit d'ailleurs le président qui sera élu la semaine prochaine, que ça soit Obama ou que ça soit McCain, je crois que ça sera exactement la même chose et la politique qu'ils vont mener les deux sera à peu de choses près la même. D'ailleurs, ils pensent garder Robert Gates au Département d'État. Quelqu'un de Goldman Sachs reprendra la suite certainement de Paulson au Trésor. Je crois que
on est dans le choix entre Pepsi et Coca.
Voilà, je crois quel que
peut-être
soit
un peu plus social au niveau notamment
un petit peu plus, mais quel que soit le président qui sera élu la semaine prochaine, je crois que les défis qui attendent l'Amérique, qui sont des défis géostratégiques majeurs, c'est-à-dire comment conserver son hégémonie, son niveau de vie et dans un monde où la Chine et l'Inde se développent, je crois que ça sera le même défi et ils y apporteront les réponses qui seront similaires.
Alors précisément, si nous pouvons aborder avec vous, Jean-François Soubirous, cette question des soubassements géopolitiques de ces transformations économiques et sans doute également de ces crises financières économiques auxquelles nous assistons aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin et nous expliquer ce jeu relativement complexe qui s'opère entre les États-Unis et la Chine? Vous l'avez magnifiquement décrit dans votre ouvrage « Les royaumes combattants », paru aux éditions First Edition, et dans lequel vous mettez en avant l'existence de deux temps tout à fait différents, un temps long dans lequel la Chine a besoin de s'inscrire pour continuer sa montée progressive en puissance, et puis au contraire un temps court dans lequel les États-Unis sont obligés de se situer pour justement essayer de garder ce leadership constant. Et alors, un analyste récent aussi expliquait sans tomber évidemment dans le conspirationnisme, mais tout de même que l'un des effets indirects, en tout cas, de cette crise telle qu'elle se déploie sous nos yeux depuis 2 mois, c'est tout de même une paupérisation relative très forte des concurrents potentiels des États-Unis d'Amérique. En particulier les pays producteurs de pétrole. La Russie, après son intervention en Géorgie, qui devenait très gênante. Le Venezuela, qui ne peut plus fournir ses programmes sociaux parce que son programme pétrolier a du plomb dans l'aile.
L'Iran,
qui évidemment dépendait de ses devises pour financer son programme d'armement nucléaire, ou en tout cas de reconversion nucléaire. Et puis la Chine, qui indirectement... déjà s'est lancé dans de manière un peu inexpérimentée à travers ses fonds souverains dans la recapitalisation de certaines entreprises bancaires américaines, et puis qui a vu entre-temps le cours baisser de façon vertigineuse en 3 mois, et de surcroît, la propriété, entre guillemets, le pouvoir politique qui théoriquement est rattaché à la possession des actions, passé entre les mains du Trésor. C'est-à-dire qu'ils ont payé pour être en fait dépossédé du pouvoir politique qui théoriquement est attaché à la possession des actions. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette crise en termes géopolitiques et comment l'articulation États-Unis-Chine joue ?
Oui, alors vous avez évoqué plusieurs points. Sur le pétrole, d'abord, il faut se souvenir que les cours du pétrole, bon, sans jouer les conspirationnistes, mais enfin, ils ont été, dans le passé, manipulés. Ils ont servi, l'arme du pétrole a largement servi la politique, la géopolitique américaine, en particulier dans les années 80. Hein, puisque en 79, il y avait eu le deuxième choc pétrolier
À une tentative de renversement du Shah avec l'expérience de
Syrie. Oui, réussi, l'arrivée de Khomeini en 79.
Par en tout cas avec une délégation américano-française, puisque Khomeini était accueilli à Naufle-le-Château. Mm. Et donc, c'est dans l'intention d'empêcher le rayonnement géopolitique de l'Iran, avec la grande politique régionale que voulait mettre en place le Shah, que l'administration Carter s'est retrouvée, en quelque sorte, à soutenir une révolution de palais qui a mis en place effectivement le fondamentaliste religieux qui était Khomeini.
Oui. Enfin, en tout cas, dans les années 80, il y avait le problème de l'Union soviétique. L'Union soviétique, en 79, elle a été aussi enlisée en Afghanistan. Là, par contre, oui, c'était les États-Unis ont encouragé les islamistes à renverser le gouvernement élu, je ne me souviens plus de son nom.
Voilà.
C'est ça. Hein. Et donc, toutes les années 80, alors que le pétrole avait subi sa deuxième crise ou sa deuxième multiplication par 3 des cours, dans les années 80, miraculeusement, le cours du pétrole a chuté.
Entre autres à cause de la guerre Iran-Irak, d'ailleurs, qui a obligé les deux principaux pays producteurs à acheter des armes de manière massive aux pays occidentaux et donc à vendre un pétrole bradé. On a eu un effondrement après 80-82.
Oui, c'est surtout l'Arabie Saoudite et le Koweït qui ont mis beaucoup de pétrole sur le marché pour faire chuter les cours sur instruction, enfin sollicité par les États-Unis. Ouais. L'objectif de Ronald Reagan, c'était vraiment de faire chuter et d'asphyxier carrément l'Union soviétique dans les années 80, de la pousser à la faillite. Parce qu'il y avait d'une part la course aux armements, donc la guerre des étoiles, et bête l'Union soviétique avait voulu faire concurrence à lui suivre. Elle était empêtrée en Afghanistan et ça lui coûtait beaucoup d'argent. Et puis, les cours du pétrole se sont cassés la figure complètement dans les années 80, de manière... la guerre Iran-Irak, non, c'était un facteur, au contraire, de montée des cours de pétrole. C'est l'Arabie Saoudite et le Koweït qui ont augmenté leur production pour faire chuter les cours. Ça a marché. Puis il y a eu ce personnage extraordinaire qui était Gorbatchev, qui a rendu les armes avec une naïveté étonnante et ça a fonctionné. Mais donc le pétrole a servi de bras armé, enfin d'arme pour les États-Unis. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? C'est effectivement un double tranchant. Mettre des cours du pétrole là. Alors je dis pas que les États-Unis commandent les cours du pétrole, mais enfin, il faut pas oublier que les 2/3 des réserves sont au Proche-Orient, que les 3/4 du potentiel d'exportation c'est le Proche-Orient, que le Proche-Orient c'est sous la main des États-Unis, qu'ils ont au cours de ces dernières années constitué un gentil croissant chiite au-dessus de ces pétromonarchies sunnites, hein, qui va de l'Iran, l'Irak, le Hezbollah, etc. Et que les pétromonarchies sunnites sont quand même largement entre les mains des États-Unis. Pas oublier aussi qu'elles ont des réserves de change colossales et que ça permet aussi peut-être.
Fonds souverains d'ailleurs.
Oui, mais d'abord, oui, fonds souverains, mais d'abord, ça permet un peu de suppléer et de pas laisser la Chine toute seule, les pays d'Asie tout seuls acheter les bons du trésor. Ça, parce que sinon, tous ces pays, ces pétromonarchies auraient depuis longtemps laissé tomber le dollar beaucoup plus massivement qu'elles le font timidement et pour se retourner vers l'euro. Donc. Où en étais-je là?
Oui.
Donc, un pétrole cher, effectivement, aujourd'hui, c'est mauvais pour la Chine. Donc, si le pétrole passait à 200-250 dollars, la Chine pourrait être économiquement très asphyxiée, puisqu'elle importe aujourd'hui la moitié de sa consommation de pétrole et que ça augmente. C'est-à-dire que les réserves de pétrole de la Chine sont en voie d'être tarir. Mais par contre, un pétrole cher finance des ennemis potentiels, enfin des gens qui commencent à déranger un peu trop les États-Unis, la Russie qui exerce une pression importante sur l'Europe de l'Ouest, ça c'est pas très bon pour l'Amérique, le Venezuela qui finance des régimes en Bolivie et un petit peu partout des régimes de gauche, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Or les États-Unis ont pas trop envie de s'occuper de l'Amérique latine aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres priorités. Et puis l'Iran. Donc voilà, donc il y a des effets contradictoires. Alors la récession dans laquelle nous entrons est fortement déflationniste sur les cours des matières premières. Est-ce que ça va durer? Alors d'abord, le pétrole ne devrait pas descendre en dessous de 50 dollars. Je crois qu'aujourd'hui, ça constitue un plancher, parce que 50 dollars, c'est le seuil de rentabilité des investissements qui ont été engagés au cours des 5, 6, 7 dernières années pour augmenter les capacités, faire des nouveaux forages. Parce qu'aujourd'hui, plus on fore, plus ça coûte cher, parce que les réserves les plus accessibles... En fait, c'est l'Irak qui a les réserves de pétrole les plus accessibles. Ça coûte moins d'un dollar pour extraire un baril de pétrole d'Irak, alors que ça coûte 20 ou 30 dollars pour extraire autour de la Caspienne, ou pire, les sables bitumineux du Canada.
Oui, on parle même de 150 ou 170 dollars pour les pétroles offshore qui seraient exploités en Arctique, en Alaska ou sur le plateau continental sibérien, est effectivement une perspective possible, envisageable à l'horizon du 21e siècle.
Aujourd'hui, le prix du pétrole a baissé de manière tout à fait extraordinaire. Je veux dire que personne n'aurait... on pouvait penser qu'une récession allait exercer des pressions à la baisse sur le prix du pétrole, mais on n'imaginait pas que ça allait chuter de 140 à 60 dollars. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que ça va durer? La récession, moi je pense qu'elle va être, comme on en a discuté dans tout le début de l'émission, on n'en est qu'au début de cette crise. Elle est certainement pas derrière nous, on en est au début. Il va y avoir plusieurs volets. Et donc le prix du pétrole va subir des pressions à la baisse. Je pense pas que ça va baisser en dessous de 50. Est-ce que ça peut remonter? Ça peut remonter sous des effets, alors là carrément géopolitiques, une attaque sur l'Iran, un blocage du détroit d'Ormuz, des choses comme ça peuvent faire remonter le pétrole de manière tout à fait brutale.
C'est pas un jeu à somme nulle, hein.
Non,
c'est pas un jeu à somme nulle. Moi je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que vous êtes parti de Ford. Je vous ai dit tout à l'heure, la crise qu'on traverse, c'est une crise de fond et elle est liée à notre modèle mental. Le modèle mental que nous quittons, c'est le modèle de Ford. Un modèle basé sur justement cette production de masse, consommation de masse, etc. Assis sur cette motricité qui a amené nos populations à vivre dans des banlieues. Et on rejoint toute la spéculation immobilière que vous évoquiez tout à l'heure. Tous ces montages financiers qui ont permis aux gens de devenir propriétaires de plus en plus loin des centres-villes et qui nous a embarqués dans une économie extrêmement énergétivore. Et c'est cette économie énergétivore aujourd'hui qui est notre propre piège, tout en étant la clé de voûte de l'ensemble de notre système, je dirais, de création de richesses, puisque c'est tout à reposer, tout repose sur le pétrole. D'ailleurs, vous évoquez en effet la domination des Américains sur ce cycle pétrolier, qui est tardif, parce qu'au départ, c'était quand même les Européens qui le maîtrisaient, qui avaient notamment été à l'origine avec les Anglais. La rupture s'est faite dans les années 30, lorsque Churchill, grand argentier de la couronne, a fait glisser, après la crise de 29 justement, a fait glisser les stocks d'or de la banque d'Angleterre vers les États-Unis, leur permettant justement de commencer à armer cette économie de masse dans laquelle nous sommes rentrés. Et moi, je pense que ce qui s'est passé là au cours des 50 dernières années, c'est une rupture majeure
Et je pense que beaucoup l'ont compris, notamment maintenant, on commence à le comprendre en Europe, c'est un petit peu tard, mais enfin, c'est un petit peu, ça devient de plus en plus net. Ils sont en train de quitter toute la philosophie wilsonienne vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Amérique latine, etc. Ce qui a été, je dirais, cette rupture avec cette philosophie wilsonienne, avec les anciens cousins.
Wilson, ouais, en 1918, au moment du règlement de la traité de Versailles.
La solidarité avec les cousins d'hier, y compris même avec l'affaire russe, je dirais, la stratégie de Reagan d'abandonner l'Union soviétique dans les années 80 est dans ce cheminement-là. Et dans ce cheminement-là, parce que faut se rappeler quand même de tous ces écrits qui ont été faits aux États-Unis sur la Nouvelle Amérique, hein, celle qui doit se redresser, celle qui doit être dans une logique de born again, quoi, en quelque sorte. Et le born again, il n'est pas sur l'Atlantique Nord. Il n'est plus sur l'Atlantique Nord. Il est sur le Pacifique Nord. Et c'est eux qui ont inventé la marche en avant de la Chine. Et du reste, le premier ministre en Chine, c'est Walmart. C'est Walmart, c'est pas les Chinois. Et ils ont déporté une grande partie de leur outil en Chine, et c'est les revenus de cet outil qui permettent de pouvoir justement garantir toute l'ingénierie financière, la continuité de cette ingénierie financière américaine. Et c'est astucieux, parce que par ce biais-là, ils piègent leur principal partenaire. Aujourd'hui, la Chine n'a absolument aucun intérêt à ce que l'Amérique tombe. Aucun. Aucun. Oui, parce qu'ils sont liés. Ils avaient fait déjà ça avec le Japon. Ils viennent de le refaire avec la Chine. Donc, et ils sont en train de bâtir le continuum de la gestion de leur leadership, mais cette fois-ci en l'assoyant sur le Pacifique Nord. Et il faut voir qu'on a eu une rupture, notamment par exemple dans le commerce international, qui est extrêmement intéressante, depuis 20 ans. On a eu une bascule des échanges qui étaient à 60-70% sur l'Atlantique Nord.
Transatlantique.
Oui, transatlantique, qui sont aujourd'hui de cet ordre-là sur le Pacifique Nord. Et la crise que nous traversons aujourd'hui, du reste, j'ai écrit, et ça intéresse les auditeurs, j'ai écrit un édito, vous pouvez aller sur mon site, hein, www.xavierguillou.com, un édito que j'ai appelé « Ouragan sur l'Atlantique Nord ». Et je pense même, vous voyez jusqu'où je pense même à Nicolas Sarkozy. Alors, si je reprends les thèses du complot qui ont été évoquées avec tous nos dirigeants qui sont membres d'une secte aux États-Unis, moi je pense que nos exécutifs, il faut bien les connaître, ils sont partout. Hein. Ils sont membres de clubs au Japon, de clubs en Chine, de clubs. Parce qu'à ce moment-là, M. Raffarin, il est l'otage des sectes chinoises. Hein, bon, comme il va tout le temps en Chine. Non, je pense qu'un exécutif, il a son 180 degrés, il est présent partout. Mais Nicolas Sarkozy, il sent bien aujourd'hui qu'il y a une espèce de désarticulation qui est en train de se faire sur ces grandes solidarités sur l'Atlantique Nord, que cette crise est en train d'éprouver ça. C'est pour ça que moi je suis assez admiratif sur son déploiement d'énergie. Je ne suis pas toujours admiratif sur tout, mais là, je suis assez admiratif sur son déploiement d'énergie pour essayer de tenir le truc, pour essayer de tenir cette espèce de minimum de connivence ou de concertation entre les vieux oncles et les jeunes neveux, quoi. Et faire en sorte que ça ne se désarticule pas trop vite, parce que si ça se désarticule trop vite, nous, Européens, on est assez mal dans l'affaire, parce que nous sommes, quand vous regardez bien l'ensemble du train qui est en marche, du TGV qui est en marche aujourd'hui dans cette mondialisation, la locomotive qui est en surpuissance, c'est les États-Unis. Ceux qui alimentent la surpuissance ou qui la garantissent, c'est l'Asie. Et ceux qui sont le wagon restaurant, c'est nous. Hein, et nous, on est dans cette culture que vous évoquez, que j'aime beaucoup. Ça, je vais retenir et je vais le revendre à tous mes amis. C'est cette culture de la société libertaire et du libertinage. Et du libertinage. Non, vous avez des sources d'informations que je n'ai pas, mais que tout le monde a par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on s'est quand même en Europe, hormis peut-être l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont sur des profils un petit peu différents, notamment l'Allemagne depuis la fin de l'os politique et la réunification et qui s'est remis en marche. Hein. Et j'aime bien votre allusion à toute cette diplomatie du 19e siècle. Je pense en effet qu'on est vers un réveil des puissances centrales et qu'on revient vers des managements de réal politique sur les espaces
où les intérêts des uns et des autres vont s'exprimer de façon plus radicale et plus explicite. Mais nous, par exemple, pour prendre le cas de la France au milieu de tout ça, on est hors du temps, hors du monde. Je veux dire, on est complètement décalé. Et Sarkozy l'a très bien compris. Donc il essaye de raccrocher l'Europe ou de raccrocher quelques concepts à ces mouvements de fond qui sont énormes, parce qu'en fait, on est en train de s'apercevoir derrière cette crise que le centre géostratégique du monde qui était sur l'Atlantique Nord est en train de se déplacer, et là c'est très net, il est en train de se déplacer. De temps à autre, vous avez des époques un petit peu emblématiques, hein, des dates un peu emblématiques pour pouvoir marquer des ruptures de temps, quoi. Et là, ça y est, c'est en train de se faire, c'est en train de s'installer sur le Pacifique Nord. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est le deal qui va être signé entre les Chinois et les Américains pour la sortie de crise. Et ce deal, il ne sera pas explicité à Camp David. Camp David, c'est une réunion où on va amuser les Européens, mais il y a d'autres réunions qui sont secrètes, qui sont en train de se passer en ce moment, qui sont entre puissances riveraines du Pacifique.
Entre les gens sérieux et un peu...
C'est-à-dire, vous retrouvez qui ? Vous retrouvez l'Américain, mais vous retrouvez Vladimir Poutine, qui est une puissance du Pacifique, il ne faut jamais l'oublier. Il a une façade avec Vladivostok, et c'est quand même lui qui garantit aujourd'hui aux Américains et aux opérateurs comme des Anglais, etc., qu'une partie du pétrole de l'Asie centrale ou de la zone du Proche-Orient transitera dans les années qui viennent par un gazoduc dit transsibérien qui arrivera sur les Kourils via les Japonais. Les Japonais savent vendre trader pour tenir la relation avec la Chine. Et vous retrouvez la Chine et le Japon. Et vous allez retrouver ces quatre grands qui vont organiser, qui vont au moins organiser, au moins mettre en profil, je dirais, la gestion du leadership de demain. Et où sera l'Europe là-dedans? L'Europe avec...
Vos abonnés absents?
Non, mais l'Europe avec quand même assez frontières. Un Vladimir qui est en train de... Excusez-moi, mon propos peut-être un petit peu...
Familier
vis-à-vis de l'intéressé, mais Vladimir Poutine qui a l'intention de rétablir son espace vital et qui est en train de le mettre en œuvre depuis l'affaire géorgienne avec un certain maestro. Hein, je trouve que c'est bien mené son affaire. Et puis de l'autre côté, il y a quand même ce qui se passe au sein du monde musulman, enfin du monde de l'islam dont on n'a pas parlé et qui est quand même pas neutre. Ça touche 1 milliard d'individus qui sont sur notre flanc sud. Avec des fragilités dans ce monde musulman qui nous impactent directement au niveau de nos sociétés. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, nous pilotons mal la sortie de crise, ou du moins cette crise et la sortie de crise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème ne sera plus de régler les comptes des banques. Hein, tout ça sera parti en fumée. Le vrai problème, ce sera la survie de notre cohésion nationale, avec derrière des problématiques qui seront celui de l'éclatement de la bulle des classes moyennes. Et là, ce sera assez violent, parce qu'il y aura eu trahison de la promesse, trahison de ces promesses de bonheur dans une vie matérielle, etc., avec des sociétés qui sont aujourd'hui désenchantées, un peu désemparées, désorientées, ne savent plus très bien où elles en sont au niveau de leur repère, avec une désacralisation de la société, une perte de spiritualité, une perte de racines même, et au sein même de ces sociétés, des logiques identitaires, de communautarisme qui se sont installées, notamment en Europe, avec des logiques identitaires qui sont pas négligeables. Et quand vous discutez avec les Américains disent aujourd'hui, bon, les Européens, vous êtes gentils, mais vous n'avez pas fait le boulot que vous auriez dû faire, vous avez été un petit peu irresponsable, maintenant vous assumez, mais nous on va sur l'ère de prospérité qui est en train de se générer et qui est sur le Pacifique Nord, et vous assumez.
Jean-François Sousbiel, sur ce grand jeu mondial mettant en action, j'allais dire, les quatre grands, hein, l'Europe étant peut-être l'homme malade du monde en l'occurrence, c'est-à-dire États-Unis, Chine, Russie et puis monde arabo-musulman. Comment pourrait s'opérer cette sortie de crise si effectivement, comme l'explique Xavier Guillou, la réunion du 15 novembre n'est qu'une sorte de d'amuse-bouche pour épater la galerie, mais qui ne déboucherait pas sur des décisions réelles.
Alors non, effectivement,
qui va l'emporter dans ce jeu ? Est-ce que c'est la
réunion
Chine,
du 15 novembre, oui, je crois que tout le monde est d'accord. Oui. C'est en plus, bon, Sarkozy a habilement exploité le fait que l'exécutif américain est entre deux dans une élection. Et voilà, mais ça ne va déboucher sur rien du tout. Ouais. Alors, je suis moins optimiste que Xavier Guillou sur ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, je n'utiliserai pas l'expression « sortie de crise », parce que personne, je ne pense pas qu'il y aura un directoire avec quatre puissances qui vont très gentiment se mettre autour d'une table pour dire « comment va-t-on sortir de cette crise ?» et les gens qui vont passer des deals. J'y crois pas. Je crois que nous sommes revenus dans ce que j'ai appelé les sept royaumes combattants. Donc nous sommes revenus dans un monde d'ailleurs fermé, une sorte de monde thermodynamique fermé, avec sept puissances. Et je crois que ces sept puissances vont s'affronter.
Ce qui est aussi une modalité de sortie de crise.
Oui.
La guerre peut être une sortie
voilà,
de crise.
Voilà.
Je souscris à l'analyse de David. Je pense qu'en effet, la guerre a été
la sortie de crise de la crise de 29. Il ne faut pas l'oublier.
Et peut-être de toutes les crises du capitalisme.
Voilà, et de toutes les
crises du capitalisme. En un sens, peut-on consacrer l'adage de Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme ?
Ah, c'est bon. Ça sera l'objet d'une prochaine émission.
20h40, très dur.
Mais en tout cas, ça a été théorisé d'ailleurs aux États-Unis. Vous savez, la Première Guerre mondiale, en fait. Les États-Unis ont saisi le leadership mondial après 14-18 parce que leurs industries ont tourné à plein. La banque Morgan, la JP Morgan, etc., ont prêté aux malheureux États européens. Et en 1918, les États-Unis se sont retrouvés première puissance mondiale grâce à la guerre.
Oui.
Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale a relancé l'industrie de manière colossale. Ça, ouais. Et en 1945, les économistes américains se disaient « Ouh là là, que va-t-on faire ?» Nous entrons, Keynes d'ailleurs, je crois, pensait que les États-Unis allaient rentrer dans une dépression, dans une période de récession, parce que la guerre était finie.
Le drame économique de la paix.
Mais oui, les économistes ont été émerveillés par l'efficacité d'une industrie en temps de guerre. Je parle même pas de celle des nazis, qui a tout inventé, la fusée, la bombe, l'avion à action, etc. Mais aux États-Unis, il n'y a jamais eu une telle productivité qu'en temps de guerre. Et les économistes, et les capitalistes aussi d'ailleurs, ont été émerveillés par cette efficacité. Et sans parler de revenir à la conspiration, mais enfin, la guerre fait partie du capitalisme, fait partie non seulement de la sortie de crise, mais fait aussi partie par l'intermédiaire des lobbies et du complexe militaro-industriel, fait partie d'une guerre permanente, un peu comme dans 1984 de George Orwell. La guerre permanente fait aussi partie, je crois, du capitalisme.
Nos auditeurs n'ont plus qu'à aller se suicider.
Mais non, il n'y a pas de se suicider.
La guerre n'est pas toujours l'occasion de perdre toutes les valeurs, elle peut être au contraire, dans certains cas, une occasion d'exacerber un certain nombre de valeurs.
Je crois que toutes les puissances dont vous êtes en train de parler sont elles-mêmes avec de grosses inquiétudes internes. Et donc, pour ce qui concerne d'abord, j'ai pas le même œil positif sur M. Sarkozy qui fait pour moi beaucoup de vent et qui est pris pour un guignol par.
La deuxième chose, c'est que je pense que
les mesures qui peuvent être prises aujourd'hui vont être des mesures effectivement sur la crise financière et donc sur essayer d'avoir une certaine harmonisation en matière politique bancaire et autres, mais que il n'y aura rien au niveau de la crise de la récession parce que chacun va tirer la couverture.
Et le grand danger aujourd'hui, c'est le protectionnisme.
Et donc ces puissances qui pourraient nous isoler, elles-mêmes veulent s'isoler entre elles. Je suis pas sûr que. Donc je reste relativement optimiste. On a passé toutes les années 80-90 en pensant que les chars russes arriveraient un jour aux portes de Paris. Ils étaient à seulement 200 km. On peut pas vivre en permanence là-dessus. Et je sais que beaucoup d'auditeurs, malheureusement, sont très sensibles à ce qui est dit. Donc je voulais faire preuve d'une marque d'optimisme, rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, la crise de 73 qui était un événement très 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 grave, qui a permis aussi à la France, suite à ça, à rentrer dans la politique centrale nucléaire, et ça a eu quelque chose de positif. Et donc je préfère rester sur cette.
Peut-être pour rebondir même sur cette question de la sortie de crise, effectivement de la place du conflit dans les scénarios envisageables, et montrer aussi les constantes qui s'opèrent à travers l'histoire. Je voudrais vous citer ici un court extrait des discours de combat de Ferdinand Brunetière, un discours émis à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, et qui portait précisément pour au moins l'un d'entre eux sur cette question du lien entre l'armée et la nation et du problème de la guerre. Il dit « Il n'est pas ici lieu d'examiner si la guerre ne serait pas une loi de nature, j'entends une loi de notre nature à nous, et une de ces lois qu'on ne peut espérer de dominer un jour qu'en commençant par s'y soumettre. Mais je me borne à cette observation très simple que, si les causes de la guerre ont changé de nature, elles ne sont aujourd'hui ni moins nombreuses ni moins menaçantes qu'autrefois, et que la civilisation qu'on appelle industrielle et scientifique en a même engendré de nouvelles. Il semble bien que la guerre des États-Unis avec l'Espagne, à la fin du XIXe siècle, était l'œuvre du trust américain des raffineurs de sucre. Si jamais la guerre éclate entre l'Allemagne et l'Angleterre, c'est avant 14 que ceci est écrit, ce sera certainement, quel qu'en soit le prétexte apparent, pour des raisons commerciales et économiques. On faisait autrefois des guerres de politique et de religion dont l'objet était de rectifier, d'étendre, d'arrondir des frontières ou de ramener à l'unité la pensée de tout un grand pays. On a fait de magnificence pour maintenir ou fortifier une suprématie, une supériorité acquise. On en fera désormais demain d'économique. Et n'étant pas assurément moins terrible, l'étant même ou devant l'être davantage, nous ne pouvons ni en écarter imprudemment la pensée, ce qui nous exposerait aux surprises les plus douloureuses, ni les préparer avec moins d'attention et de résolution. C'est écrit.
C'est très bien dit.
15 ans.
Et pourtant, il y en a qui l'ont. Il y en a pourtant qui l'ont évacué de la pensée. Hein, je peux vous dire.
Alors précisément.
Quand on regarde nos différents livres blancs écrits sur les questions.
Non, il y a le dernier livre d'Olivier Todd, par exemple.
Après la démocratie.
Oui, voilà, recommande justement pour la sauvegarde de l'Europe justement de mettre un terme au libre-échange et à se replier sur derrière une barrière protectionniste, parce que il estime que les échanges en Europe de l'Ouest se font principalement entre nous. Bon, je crois que c'est simplement 20% de nos échanges qui se font avec à l'extérieur. Et que pour freiner en fait la désindustrialisation, la délocalisation, le protectionnisme. Alors le protectionnisme fait partie de l'enchaînement des événements dans les années 30. C'est-à-dire qu'après la crise financière boursière de 29, la plongée dans la récession a été aggravée par la montée du protectionnisme et le commerce international est arrivé pratiquement à zéro et ça a accru, ça c'était un des facteurs accélérateurs de la crise.
Et là, je vais rompre le charme parce que j'ai été en effet tout à l'heure extrêmement positif, pour une fois, et optimiste. Moi, je veux bien qu'on bunkerise l'Europe et qu'on construise des grandes digues autour de l'Europe pour se protéger des barbares. Mais les barbares, ils sont déjà à l'intérieur. Donc, parce que quand vous avez, c'est la seule zone au monde qui est extrêmement riche, mais qui ne fait plus d'enfants. On est une fabrique de vieux. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. On a transformé l'Europe en gîte rural et on est une fabrique de vieux. Et donc on est dans cette culture du libertaire et du libertinage. Et donc alors on peut faire des livres blancs en disant oui, on va remettre quelques digues à l'extérieur, ça va protéger les barbares. Mais les barbares, ils sont à l'intérieur. Et quand je dis les barbares, c'est au sens grec du terme, c'est-à-dire celui qui ne parle pas la langue, celui qui même refuse de rentrer dans votre culture. Et on a aujourd'hui un brassage de population qui est en train de se faire avec un refus d'intégration dans nos modèles nationaux. Mais pas que nous. Il y a les Allemands, le même problème avec les Turcs, les Belges. Regardez l'état dans lequel est la Belgique aujourd'hui. Vous remarquez, ils n'ont pas besoin d'avoir des migrations de population pour se détruire eux-mêmes. Parce qu'entre les Flamands et les Wallons, ils sont quand même allés assez loin. Avec au milieu de tout ça, quand même, nos principaux quartiers généraux de coordination de nos intérêts. Je passe. Moi, je crois que on a un vrai problème de fond, notamment pour les Européens, ce que les Américains n'ont pas. Les Américains ont cette culture du New Deal, de la nouvelle frontière, de l'aventure permanente, du born again, etc. Donc, ils vont construire un nouveau leadership, ils vont jouer au poker menteur, comme d'habitude, avec les autres. Ils vont leur faire croire aux autres, c'est-à-dire aux Russes, aux Chinois et aux Japonais, qu'ils ont la donne, mais en fait, ils vont faire en sorte de s'approprier la donne. Ils vont travailler comme dans un bon western. Mais nous, on est tellement dans cette indolence dans laquelle nous sommes installés.
La post-histoire. La guerre n'est plus
possible. Oui, mais en plus, l'Union européenne a été construite sur le refus de la guerre. C'est plus jamais ça, quoi. Oui. Donc, faut bien comprendre ça. Et les fondateurs de l'Union européenne.
L'empire de la paix, comme
les Barroso. Oui, c'est l'empire de la paix. Mais quand vous écoutez, vous écoutiez Kouchner ce soir à la télévision, ou à la radio, parce que, sur l'affaire de ce qui se passe au Congo, il était dans ce discours de la paix, de la projection de la paix permanente, alors que sur le terrain, on n'est pas dans la crise, on est dans la guerre tout court. Et alors, le vrai problème que l'on a, c'est d'accepter de mettre La question à l'ordre du jour aujourd'hui, moi je vois par exemple avec un certain nombre de députés qui m'ont demandé d'apporter ma contribution sur cette réflexion-là, je leur dis mais arrêtez de faire dans les non composés. Alors ils m'ont dit pourquoi ? Parce que
vous avez
la guerre
froide,
la guerre de basse intensité,
la guerre économique,
le peacemaking, le peacekeeping, etc.
Peace building,
enfin, tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire tout ce qui permet de ne jamais aller jusqu'au bout du raisonnement. Je dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à traiter ? Surtout la plupart des théâtres d'opérations sur lesquels nous sommes engagés en termes soit de sécurité de nos populations ou soit de sécurité de nos intérêts, nous sommes confrontés à des opérations de guerre, tout simplement. Et ce sont les opérations de guerre qui montent en puissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on franchit un seuil, et c'est une prise d'otage, mais après une prise d'otage, c'est un contrôle de territoire, puis du contrôle de territoire, c'est toute une région qui s'embrase. Simplement, si je parle de la Somalie, que j'ai sur le Soudan, et que j'ai sur l'ensemble de la zone d'Afrique centrale, puis le Sahel, on est sur des échelles de confrontation qui ne sont pas du domaine de la crise. Et notre piège, c'est que nous sommes installés dans la logorée du mot « crise ». Et quand on parle, par exemple, de la situation actuelle, on dit, ben oui, on est rentré dans la crise financière, la crise bancaire, on va peut-être avoir une petite crise sociétale par derrière, et puis on va construire la sortie de crise, et puis on pourra recommencer.
On est dans les modèles de bonne gouvernance.
Exactement. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, la sortie de crise, là, c'était pas on recommence,
absolument,
mais on tranche.
C'est tout à fait ça.
On tranche et on rentre dans une logique de rupture majeure, et on est obligé de remettre tous les compteurs à zéro et de faire un reset sur le disque dur. Et là, pour nos populations, ça va être redoutable, parce que le problème c'est plus le problème de réévaluer nos actifs, qui passent de 100 à 80, puis on espère qu'ils passent pas à 20, etc. Non, le problème, c'est sur quel socle de valeur on assure la survivance de nos modèles de vie, et voire même sur la construction de notre devenir. Et là-dessus, quand vous faites le tour de la classe politique, vous avez quelques inquiétudes. Parce que dès que vous commencez à discuter sur le registre des valeurs, le registre du sens, même si vous commencez à discuter avec eux sur des dimensions qui sont celles de la philosophie, de la spiritualité, etc., ce qui est à la base de la crise profonde que la France traverse aujourd'hui, hein, ce désenchantement, cette crise morale, hein, où les gens essayent de retrouver des lignes d'horizon, des repères, etc., lié en grande partie à cette déchristianisation très profonde et très forte qu'on a vécue.
C'est le modèle de la Révolution française.
Ah, mais c'est le modèle de la Révolution française, réitéré, validé, etc.
Qui a été balayé.
Donc aujourd'hui, c'est pour ça que quand je parle du pilotage, du pilotage de la sortie de crise, c'est-à-dire que celui qui va prendre en main cette affaire-là, il va falloir qu'il soit capable de gérer cette notion de rupture. Okay. Et la rupture, c'est pas simplement la rupture du contrat aussi. Social, c'est pas simplement la rupture du management des banques ou du management du port de Marseille, vous voyez, dans le style. Non, c'est autre chose, c'est beaucoup plus profond. C'est sur quoi on va réunir l'âme de ce pays et la force de ce pays pour se redresser. Mais se redresser avec des gens qui ont quand même une moyenne d'âge qui est 47 ans. Hein, alors que autour de nous, la moyenne d'âge, c'est 18-20 ans. Avec des masses de population qui sont en train d'arriver, qui sont énormes, surtout quand on regarde simplement la périphérie de nos proches, la Méditerranée. Aujourd'hui, ils sont à peu près de l'ordre de 180 millions d'habitants, comme nous, si on n'inclut pas la Turquie. Et dans 30 ans, en 2030, ils sont 450 millions. Donc,
on va falloir aujourd'hui, Xavier.
Oui. Mais donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette les points sur les i et puis qu'on reparamètre quand même le logiciel. Et pour ça, il faut faire d'abord un reset sur le disque dur. Il faut faire un nettoyage du disque dur. Et avec, la bouillie qu'il y a dans la tête de nos élites et de toute la bureaucratie qu'ils ont installée, que du reste, on n'arrive pas à mobiliser aujourd'hui dans la crise financière. Ce sont ceux-là qui nous piègent aujourd'hui les éléments de réponse, qu'on devrait mettre en place sur le terrain. C'est eux qui bloquent tout le système. Ils font que Sarkozy, d'ailleurs, que bon, vous appréciez, mais... que vous n'appréciez pas, a priori, mais dont je reconnais, moi je suis pas d'accord avec beaucoup d'agitation qu'il y a, mais je reconnais que là, sur le plan, si vous voulez, du côté un peu emblématique, il y en a qu'un seul qui se remue, quoi, aujourd'hui, au niveau européen. C'est lui.
Nous verrons si l'agitation est une réponse en guise d'action. Quoi qu'il en soit, j'invite les auditeurs à poursuivre cette réflexion en consultant notamment les très beaux ouvrages de Xavier Guillou, d'une part, Quand la France réagira, paru aux éditions Erol, et de Jean-François Sozubiel, Les Royaumes combattants, paru aux éditions First. Évidemment, les précieux conseils de Jean-Pierre Rondeau, sur le site de Mégara Finance, sont aussi une très bonne manière de réfléchir et de garder la tête froide dans ces événements douloureux. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour un prochain Libre Journal des Sciences.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des Sciences, dirigé par David Mascret. Cette émission a été diffusée en direct vendredi 31 octobre 2008 de 18h à 21h et sera rediffusée samedi 1er novembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.